accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, des fleurs et une minute de silence aujourd'hui pour rendre hommage aux quatre victimes de l'attentat au camion Bélier qui a foncé sur la foule vendredi à Stockholm en Suède. Le principal suspect, selon la police, un Ouzbék de 39 ans en situation irrégulière qui affiche des sympathies djihadistes. Hier, les Suédois avaient intitulé leur rassemblement « Une manifestation pour l'amour ». Benoît Derrier y était.
Stockholmare, svenskar.
De mémoire de Stockholmois, on avait rarement vu Sergelstorg, la place principale de la ville, accueillir autant de monde. Une foule compacte, massée sur les deux niveaux de cette grande place encadrée par de hauts immeubles de bureaux et située à tout juste 50 mètres de l'endroit où le camion a terminé sa course deux jours plus tôt. C'est l'initiateur du rassemblement, le blogueur et militant antiraciste Damon Rasti, qui prend la parole.
Il est maintenant d'une importance capitale dans ce moment de tristesse et de peur qu'on ne se laisse pas aveugler par la haine, qu'on ne baisse surtout pas les bras dans notre ambition de rester le meilleur pays du monde.
La maire de Stockholm, Karin Van Gord, lui succède pour remercier les services de secours et les policiers, à qui le public rend une véritable ovation. Dans les rues avoisinantes, toutes les voitures de police sont recouvertes de fleurs. Linda, 38 ans, est là avec son mari.
Je viens de déposer trois roses rouges sur une voiture de police pour les remercier de leur action.
Les escaliers qui mènent à la place sont eux aussi entièrement fleuris. Il y a de nombreuses bougies et des messages de tolérance. Johanna, 52 ans, est venue avec sa fille de 19 ans.
Je suis venue pour rendre hommage aux victimes et montrer que Stockholm continue à vivre malgré tout. Je vais déposer des fleurs sur les escaliers qui mènent à la place un peu plus bas. Je pense qu'il est important qu'autant de gens soient venus faire de même. On ne pense pas que ça puisse arriver ici jusqu'au jour où ça arrive.
Lena, 61 ans, était déjà venue sur les lieux la veille.
C'est fantastique que tant de personnes soient venues. Hier, il y avait déjà beaucoup de monde. Je crois que les gens ont besoin de venir par eux-mêmes sur les lieux du drame.
À 14h53, l'heure précise de l'attentat deux jours plus tôt, la foule observe une minute de silence, troublée uniquement par les hélicoptères qui survolent encore la ville.
C'est une fiction qui entretient des liens très étroits avec la réalité, celle d'aujourd'hui et les drames à répétition qui touchent les réfugiés en mer Méditerranée. Depuis le mois de janvier, 663 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre les côtes européennes. Une tragédie qui appartient au passé aussi. Il y a 20 ans, 300 migrants sri-lankais trouvaient la mort au large de la Sicile après le naufrage de leur bateau. Mais personne à l'époque ne voulait y croire, d'où le titre du livre et de la série télévisée qui leur est consacrée, Les fantômes de Porto Palo. C'est un homme, un pêcheur sicilien qui a eu le courage de révéler la vérité.
Mi chiamo Saro Ferro.
Je m'appelle Saro Ferro.
E questa è la mia barca.
Et ça c'est mon bateau, la Taina.
Faccio il pescatore.
Je suis pêcheur depuis toujours, comme l'a été mon père toute sa vie.
Per una vita. Se vai per mare non sai mai quello che ti può succedere. E lo sa bene chi fa il mio mestiere. E adesso lo so bene pure io. Questo è il giorno che ha cambiato per sempre la mia
vita. Ça c'est le jour qui a changé ma vie.
E quella dei miei picciotti qua, sulla barca.
E celle de mes hommes, celle de mon pays aussi.
Prima qua si campava sereno.
Avant ici on chantait tranquillement.
Prima.
Mais c'était avant.
C'est par ces mots que commence le premier épisode de la série de la RAI. Cécile Debarge, bonjour, vous êtes notre correspondante en Sicile. Qui est ce pêcheur que l'on entend et quelle est son histoire ?
Saro Ferro, c'est le double cinématographique, pourrait-on dire, de Salvo Lupo. Salvo Lupo, lui, il existe, c'est un pêcheur de 63 ans aujourd'hui et qui est né et a travaillé presque toute sa vie à Porto Palo, sur la pointe de l'extrême sud-est de la Sicile. Son histoire, eh bien, elle est intimement liée au fantôme de Porto Palo, puisque c'est lui qui brise l'omerta et qui fait connaître à l'Italie la tragédie qui est en fait le naufrage d'un bateau, le Johan, avec à son bord près de 300 migrants venus du Sri Lanka. C'était la nuit de Noël 1996.
Le naufrage est survenu relativement près des côtes siciliennes. Comment est-ce possible que personne ne s'en soit rendu compte pendant 5 ans, jusqu'à ce que l'affaire soit révélée en 2001?
C'est le point le plus douloureux de cette histoire, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'insiste tout particulièrement la série de La Raille. Après le naufrage, les pêcheurs de Porto Palo ont commencé à remonter dans leur filet des vêtements, des chaussures, des morceaux de corps. La rumeur a commencé à enfler dans le petit village, et tout le monde parlait du thon, mot codé en fait pour désigner les cadavres. Les survivants du naufrage le disaient à qui voulait bien les entendre, le bateau a coulé, aidez-nous à le retrouver, mais personne ne croyait à leur histoire.
Et pourquoi les pêcheurs n'ont-ils rien dit ?
Ils n'ont rien dit car quelques semaines plus tôt, un bateau avait déjà remonté un cadavre dans ses filets et toutes les embarcations avaient été bloquées, ce qui représente une énorme perte économique pour les pêcheurs. Effrayés à l'idée de ne plus pouvoir retourner en mer, ces mêmes pêcheurs donc ont préféré garder le silence jusqu'à ce que l'un d'eux, Salvo Lupo, fasse la même découverte macabre lors d'une battue de pêche.
Un colpo così.
On n'avait jamais entendu un bruit comme ça sur le bateau. La mer nous avait toujours donné du poisson. Elle nous donnait la vie. Maintenant, on regarde les poissons comme nos ennemis.
Et Cécile, qu'est-ce qu'il a retrouvé exactement ?
Il a retrouvé le passeport d'un jeune homme qui avait l'âge de sa fille. Et puis au même moment, il a lu dans le journal que les 13 passeurs arrêtés pour ce naufrage allaient être libérés car aucun bateau n'avait été retrouvé. Et là, il a décidé de raconter sa découverte. Sauf qu'il s'est d'abord heurté à un mur lorsqu'il a raconté son histoire au commissariat. Personne n'a prêté attention à sa déposition. Le prêtre de la ville s'en est même pris violemment à lui. Personne ne l'a écouté. On l'a même mis à part et puis finalement, il a réussi à se mettre en contact avec un journaliste du quotidien Repubblica qui l'a cru et qui a mené l'enquête avec lui.
Cette enquête, c'est justement l'objet du livre « Les fantômes de Porto Palo » publié en 2007 puis réédité le mois dernier. C'est l'objet aussi de cette série de La Raille. Sans tout raconter, Cécile, comment cette enquête se termine-t-elle ?
Après des mois de bataille, le journaliste de Repubblica est parvenu à obtenir de l'argent de sa rédaction pour envoyer un robot sous-marin sur les lieux du naufrage et prouver avec une preuve concrète et irréfutable, en l'occurrence une vidéo, qu'un bateau avait bel et bien coulé à cet endroit.
Écoute-moi. Là en dessous, il y a 300 personnes. On les retrouve maintenant ou alors on ne les retrouvera jamais. On n'a pas d'autre choix. C'est maintenant, tout de suite.
Et adesso. Ora.
Rapidement, le robot sous-marin a découvert des chaussures, des vêtements et enfin l'épave. La série se termine sur ces quelques mots du journaliste Assaro Ferro, le pêcheur.
Je suis désolé. Désolé pour toi parce que dans cette histoire, moi je vais en tirer un peu de gloire alors que toi, c'est tout un tas de problèmes qui t'attendent.
Avrai tante, tante altre seccature.
Ce que ni le film ni le livre ne racontent, c'est ce qui est arrivé à Salvo Lupo, le vrai pêcheur de l'histoire, après. Lorsque la vérité a éclaté au grand jour, les journalistes sont arrivés de tout le pays. L'Italie s'est scandalisée et s'est demandé comment une histoire si sordide avait pu durer si longtemps. Salvo Lupo est devenu l'ennemi public numéro 1, celui surtout par qui l'opprobre avait été jeté sur Porto Palo. Il a fini par travailler en mer dans le nord de l'Italie, à Livourne, en Tunisie aussi, fatigué de devoir affronter la défiance de ses collègues.
Merci Cécile Debarge, Les fantômes de Porto Palo, une série à découvrir en replay sur le site de La Raille et aux éditions Mondadori, pour ceux qui parlent italien.
Well, ladies and gentlemen, putting things in good shape for the new system has been quite a job.
En protégeant la nature, c'est ainsi que les Finlandais ont décidé de célébrer cette année le centenaire de l'indépendance de leur pays. Chaque citoyen s'engage à protéger un terrain, promesse à laquelle répond le gouvernement, en créant une zone de conservation de la même surface, du donnant-donnant, que nous explique Pauline Curté.
Le principe de cette initiative, lancée par des propriétaires finlandais et soutenue par le gouvernement, est un peu complexe. Chaque Finlandais qui le souhaite choisit un bout de terre lui appartenant, auquel il est particulièrement attaché pour des raisons sentimentales par exemple. Il envoie des photos et détaille les caractéristiques de ce terrain au ministère de l'Environnement, qui décide s'il peut être classé comme réserve naturelle. Si c'est le cas, le propriétaire s'engage alors à préserver cette parcelle, à la garder telle qu'elle. Donnant-donnant, le gouvernement promet d'agrandir un parc national ou de créer une zone de conservation de la nature de la même surface que le terrain protégé. Sur un site créé pour l'occasion, les premiers Finlandais à s'engager dans cette initiative expliquent leur motivation. Eva Kilpi, par exemple, une célèbre poétesse et auteure locale, a décidé de protéger près de 3 hectares d'une forêt particulièrement importante pour elle, car elle a inspiré dans son travail. Un autre, resté anonyme, protège quelques hectares parce qu'il aime s'y promener. Pour le moment, 270 hectares ont été donnés et l'objectif de protéger un total de 3600 hectares d'ici à la fin de l'année devrait facilement être atteint. Cela peut sembler beaucoup, mais dans ce grand pays peu peuplé, la nature abonde et fait partie intégrante de la culture finlandaise. Alors, rien de plus logique que de vouloir la protéger lors de la célébration de l'indépendance du pays nordique. Avec cette initiative, la Finlande a peut-être inventé un nouveau patriotisme, le patriotisme écologique.
Dans la lutte contre le réchauffement climatique et le souci de traçabilité de notre nourriture, les circuits courts ont la cote. On connaissait les paniers paysans, la vente directe sur les marchés ou à la ferme. Mais voilà que dans l'est de la France, 35 paysans ont décidé d'ouvrir un supermarché de producteurs. Les bâtiments sont ceux de l'ancienne marque Bon Marché Lidl, racheté par ce collectif et rebaptisé Cœur Paysan. La clientèle est au rendez-vous, c'est le reportage de Katia Michel.
En entrant dans le magasin Cœur Paysan, rien de surprenant à première vue. On trouve des caddies à l'entrée, des caisses, des étals et des rayonnages comme dans un supermarché classique. Sauf qu'ici, les vendeurs sont en fait les producteurs.
Marc Rolly, ferme Rolly à Bergheim. Je suis producteur, je suis agriculteur et je produis des pommes et des produits transformés à base de pommes. Donc je suis plutôt attribué au rayon fruits et légumes pour ce qui me concerne.
Ben, moi c'est Vincent Goetz, donc je suis salarié de notre ferme familiale qui produit du fromage, quoi. Fromage et différents produits laitiers. C'est mon tour de permanence cette semaine, quoi.
Moi je suis maraîcher à Célestin, une vingtaine de kilomètres d'ici. Ben, là je suis en train de recharger le stand de légumes en légumes, là, en l'occurrence en pommes de terre de notre ami Jean-Luc Schelcher, qui est producteur à quelques kilomètres du magasin. Voilà, tour de rôle des agriculteurs, on se remplace pour remplir les rayons, pour écouter les clients, pour conseiller les clients.
Marc, Vincent et Denis font partie des 35 agriculteurs qui gèrent ensemble ce supermarché de producteurs ouvert il y a 3 mois. Coût total de l'investissement, 1,5 million d'euros. Un projet ambitieux lancé par Denis Digel.
Le plus grand défi finalement, c'était de se retrouver autour d'un projet qui fédère et de créer ce projet d'abord, juridique, financier, comptable, humain avant tout. Alors on a 2 viticulteurs, on a 3 ou 4 producteurs de légumes dans le magasin, on a 2-3 producteurs de fruits. Donc concernant les autres stands, on a un artisan qui nous fait de la bière, et on a 7 producteurs de fromage, de lait et de fromage, on a 7 producteurs de viande différents. Donc, viande de bœuf, viande de veau, volaille, volaille grasse. On a même quelqu'un qui fait du sanglier, un chasseur. C'est pas un agriculteur, mais c'est un chasseur. Ben donc finalement, un tour de rôle, il y a toujours un ou voire 2, voire 3 agriculteurs présents dans le magasin pour montrer qu'on est des producteurs, qu'on s'engage vers la proximité et pour rendre confiance finalement, pour donner confiance aux consommateurs. Parce que le concept de Cœur Paysan, c'est finalement la fin de l'anonymat alimentaire.
D'où vient le produit ? Denis Digel en est convaincu. Le consommateur, échaudé par les différents scandales alimentaires, veut aujourd'hui savoir ce qu'il y a vraiment dans son assiette.
Les gens, le consommateur, les citoyens ont soif de découverte, soif de savoir d'où vient leur alimentation. Les consommateurs qui viennent chez nous, ils veulent de la proximité. Alors à nous aussi de trouver notre place, à nous aussi, paysans, de s'affirmer. D'ailleurs, le mot cœur paysan, le nom cœur paysan n'est pas du hasard, c'est une vraie affirmation de ces 35 copains. Une vraie affirmation de notre rôle dans la société, c'est de nourrir les concitoyens. Il y a une certaine partie de la population qui veut retrouver le lien avec la terre. Nous, on suit finalement un mouvement exigé par le consommateur, la proximité avec la terre, la proximité avec les gens qui font du savoir-faire alimentaire dans leur territoire.
Et effectivement, Denis ne s'est pas trompé. C'est bien cette proximité et cette relation de confiance que les clients sont venus chercher.
Ils sont présents, on sait s'adresser à quelqu'un qui a forcément produit ce qu'on achète ici. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire ou s'il a besoin de savoir quelque chose, c'est plus, l'échange est plus direct, quoi, je dirais.
C'est une autre qualité quand même. C'est direct du producteur, ça ne voyage pas d'une adresse à l'autre, quoi. Par exemple, le bœuf, le veau, et ça vient de pas loin de chez nous. On sait de quoi ça nous prive, et ça c'est l'essentiel.
Et puis c'est tous des producteurs qu'on connaît maintenant, donc il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas là.
Ah, moi je trouve ça bien, hein, mais je crois que ça marche, enfin je pense, parce que les gens, je pense qu'ils en ont marre de bouffer de la merde. Là on venait pour le fromage, parce qu'on a pris le reste d'ailleurs. Pour une raclette, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en supermarché. Donc, si on va en supermarché et qu'on prend des produits un peu plus de qualité, c'est le même prix, donc il n'y a pas de souci.
Je préfère payer le prix directement au producteur et qu'il puisse se faire une petite marge, lui, que la grande surface n'encaisse la différence et qu'au moins lui soit payé au bon prix, au juste prix. Les agriculteurs livrent leur production le matin et ils sont libres de fixer eux-mêmes le prix de vente. Le magasin fonctionne un peu comme une sorte de dépôt-vente, un modèle économique beaucoup plus rentable pour certains producteurs comme Vincent Goetz.
Ici, on est sur un point de vente collectif de ville, et donc le bassin de consommation est immense, quoi. Donc on s'en rend compte, quoi. Il y a énormément de clients, quoi. Parce que nous, par exemple, on transforme, et il y a une partie de notre lait qu'on vend à une laiterie. Et ce lait-là, clairement, il n'est pas payé au juste prix, quoi.
Et lors du passage en caisse, 1,80€ le kilo de pommes, 2,50€ le litre de jus de fruits, la note n'est pas vraiment plus salée que dans une grande surface classique. Les supermarchés de producteurs pourraient être l'un des remèdes aux crises agricoles.
Bonjour.
Encourager les circuits courts, c'est en tout cas l'un des volets de la réforme de la politique agricole commune. Mais en attendant d'éventuels soutiens financiers, Cœur Paysan compte avant tout sur la passion et sur l'engagement des agriculteurs.
Merci. 22,38€, s'il vous plaît.
Bruxelles rendra bientôt hommage au chanteur Jacques Brel pour les 40 ans de la mort de l'interprète. Une statue en bronze va être installée à l'automne prochain sur la place de la Vieille Halle au Blé, à une centaine de mètres de la Grand Place. À partir de là, il sera possible de suivre un parcours Jacques Brel. Les explications de Laxmilota.
Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité.
Le ciel bas de Bruxelles pourra désormais toucher la statue de Jacques Brel. Le sculpteur belge Tom Franssen a choisi de représenter l'artiste de manière expressive. Il réalise son œuvre d'après une photo de l'interprète sur scène. Cette statue sera placée juste en face de la Fondation Jacques Brel, qui propose un parcours découverte de presque 3 heures dans la ville avec un audioguide. L'occasion de se rendre dans les lieux que l'artiste avait l'habitude de fréquenter, où il allait dîner, boire ou chanter. On se rend dans des estaminets comme la Bécasse, près de la Grand Place, où Jacques Brel a célébré son enterrement de vie de garçon, ou à la mort subite. À la fin des années 50, dans le cabaret La Rose Noire, Brel allait chanter et jouer de la guitare.
J'aime les pavés de ma rue.
Imaginons Jacques déambulant ici. La guitare à la main
qui pend le linge tout blanc.
Au programme de la promenade, le théâtre de la Monnaie ou la comédie musicale L'homme de la Mancha, adaptée en français par Jacques Brel, a été joué pour la première fois.
Brûle encore, même trop, même mal.
En traversant les galeries Saint-Hubert, on apprend que l'auteur-compositeur allait ici au cinéma et dans une boîte de jazz, le Blue Note. Une balade en 22 chansons avec des extraits d'interviews d'artistes comme Barbara, mais aussi Brel lui-même. Les commentaires sont signés de sa femme, Miche, et de sa fille, France. Une belle manière de visiter Bruxelles.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Sophie Janin. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. À demain.